passons au Mag Actu, dans lequel plusieurs chroniqueurs vont nous présenter des sujets très divers. Sans plus attendre, commençons par des élèves de Terminal Agora qui vont nous raconter leur séjour en Norvège dans le cadre du projet Erasmus. Écoutons tout d'abord Noémie et Swanhild.
Bonjour, donc oui, on s'appelle Noémie et Swanhild. Il y a également Sarah qui n'est pas présente avec nous aujourd'hui. Mais nous sommes trois filles de Terminal Agora et nous avons eu la chance d'être choisies parmi plusieurs candidatures pour partir en Norvège. Nous sommes partis du 10 au 24 mars 2024 et nous avons effectué notre stage dans l'hôtel Zanderka qui est situé dans la deuxième plus grande ville de Norvège, Bergen, après la capitale d'Oslo.
Donc nous allons vous raconter une journée type que l'on a fait pendant nos deux semaines à l'étranger. Donc tout d'abord, on allait au stage en tramway. Le trajet était assez court, nous avions environ 5 minutes. Puis on traversait la gare à pied. Une fois arrivés à l'hôtel, nous allons dans les vestiaires poser nos affaires. Nous descendions ensuite dans la cuisine pour dire bonjour et s'équiper d'un tablier. Une fois prête, on se rend en salle de service afin de débarrasser le petit déjeuner des clients. Donc c'était environ de 8h à 10h. Après le petit déjeuner, nous devions dresser les tables donc de différentes façons. À 10h45, nous allons manger le repas du midi que l'hôtel nous offrait. Donc nous mangeons ce qui était présenté au service du matin. Donc c'était principalement du sucré et du salé. Puis après le repas, nous faisions la plonge de toute la vaisselle du matin, donc cela jusqu'à 12h ou parfois 13h, cela dépendait des journées.
Donc nous avions nos après-midi de libre pour visiter Bergen et ses alentours. Nous avons eu aussi l'opportunité les deux derniers jours d'assister à des cours dans un lycée professionnel situé à Assen, à la suite de notre matinée typique à l'hôtel. Donc pour nous, ce stage, ça a été une superbe occasion pour approfondir notre anglais, pour être plus autonome et découvrir un nouveau pays ainsi que leur mode de vie.
J'ai quelques questions à vous poser. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas être très dur. Quel est le plat en Norvège qui vous a fait le plus saliver?
Alors déjà, la nourriture là-bas, on n'aimait pas trop.
Ah.
Donc on a principalement mangé des pâtes déjà.
Ah, il n'y avait pas une spécialité locale?
On a simplement, un mercredi soir, mangé avec les professeurs norvégiennes. Elles nous avaient proposé une soupe au mouton. Bon, à vrai dire, c'était assez bon en vrai.
Mais... Oui, on va dire que ça aurait été autre chose. Vous auriez préféré peut-être?
Bon, après, c'est vrai qu'on a eu aussi des desserts à la cannelle. Bon, faut être fan de cannelle, comme nous, on n'y est pas... Voilà, on n'a pas aimé, mais sinon, voilà.
Ah, ça vous a pas réussi la Norvège au niveau gustatif?
Non, vraiment pas.
Mais est-ce que vous aviez consulté des sites, on va dire Marmiton ou d'autres, sur le net, pour voir des spécialités norvégiennes qui vous éventuellement faisaient plaisir ou avaient envie?
Bon, pas du tout. Nous, tout ce qu'on cherchait, c'est faire des repas français, puisqu'on est habitué à ça. On n'a pas saisi l'occasion de faire des repas norvégiens, c'est vrai.
C'est bien dommage.
Après, il y a l'hôtel qui nous avait préparé une spécialité norvégienne. Donc, c'était une pâtisserie avec de la crème pâtissière. Et par contre, ça, c'était bon.
Et dans les cours, vous avez pu faire quoi comme cours? Est-ce que c'était vraiment général ou est-ce que vous aviez quelques spécialités sur place?
Comme c'est un lycée professionnel, on a fait un cours dans le tourisme et un autre cours en anglais, mais on comprenait pas trop. Ils essayaient de parler en anglais pour nous, mais ils parlaient principalement aussi norvégien, donc on écoutait seulement.
Et qu'est-ce que vous avez pu retenir de ce cours sur le tourisme? Qu'est-ce qu'ils abordaient exactement?
Alors honnêtement, pas grand-chose.
Là-bas, les cours, ils sont assez cool. Comparé à chez nous, les élèves font un peu ce qu'ils veulent dans leur cours, ils mangent, ils mettent les pieds sur les tables et tout, alors que nous, c'est pas du tout ça, c'est plus strict. Mais sinon, on était dans un cours de tourisme, mais ils nous ont présenté la ville de Bergen et ce qu'il y avait à faire. Donc voilà, après, ils ont fait ça pour nous, donc je suis pas sûre que leur cours ressemble tout le temps à ça.
Et alors, vous avez pu parler de la ville, et quels seraient les monuments ou les structures à visiter?
Moi, je dirais la rue de Bregenz, c'est des maisons colorées dans une rue en bois, mais c'est hyper typique. Il me semble que c'est reconnu mondialement.
C'est du patrimoine, on peut dire?
Oui, on peut dire ça.
Et on a aussi fait l'Ulriken, donc c'est un funiculaire qui monte en hauteur. Et après, on a toute une vue panoramique en haut des montagnes sur la ville de Bergen et les montagnes autour.
Parlons un peu du panoramique. Quels sont les paysages que vous avez pu voir? Est-ce que vous avez pu voir beaucoup de vert? Est-ce que c'était surtout du gris avec les lumières de la nuit, par exemple?
Alors oui, bah dans la vue panoramique, on avait un côté où c'était vraiment qu'on voyait que les montagnes enneigées. Et d'ailleurs, il y avait la neige, mais que en haut des montagnes. Nous, en bas, on n'avait pas de neige. Il faisait très froid, il y avait beaucoup de vent. Et l'autre côté, bah c'était que la ville de Bergen. Donc on avait les montagnes d'un côté et après la ville. Donc c'était super incroyable à voir.
Est-ce que ce serait à refaire tout ça?
Bah bien sûr, oui.
Bah oui, c'est toujours un plaisir de partir dans un autre pays, mis à part la nourriture là-bas. Que...
Et vous conseillerez ça à d'autres personnes d'aller faire un tour en Norvège?
Oui, bien sûr. Après, faut pas y aller pour le soleil là-bas.
C'est un peu comme chez nous en Normandie, oui, il pleut là, c'est ça?
Ouais, voilà, c'est exactement pareil.
Ok, donc on va dire qu'on n'est pas dépaysé là-bas.
Ah non, pas du tout.
On est cousin-cousin, on va dire.
Merci Noémie et Swanhild. C'est maintenant au tour de Marine et Lilou de nous donner leur témoignage sur leur expérience en Norvège.
Bonjour, nous sommes deux élèves de terminale gestion administration au lycée professionnel Edmond Doucet. L'an dernier, nous sommes partis 3 semaines en Norvège pour y réaliser un stage en partenariat avec Erasmus. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une journée typique de notre séjour. Premièrement, nous résidons dans une résidence universitaire. Nous avions une chambre individuelle, une cuisine et une douche commune. Et notre stage s'est déroulé également au sein de l'hôtel Zanderka.
Le matin, nous nous levions à 7h, nous nous préparions et partons à 8h en direction du tramway. Nous arrivions à notre lieu de stage à 9h. Là-bas, nous pouvions y être amenés à nettoyer les chambres, préparer le petit déjeuner et gérer la réception. Vers 11h, l'hôtel nous offrait le repas chaque midi. Nous terminions notre journée à 14h. Les après-midi, nous avons eu l'opportunité de visiter et de faire du shopping. Par exemple, nous avons pu visiter les fjords, des montagnes enneigées situées au bord des lacs.
Ce séjour a été bénéfique pour nous. Il nous a permis de devenir plus autonomes dans les tâches quotidiennes, mais il nous a également permis de partir à l'étranger pour la première fois et découvrir un nouveau pays, mais aussi d'améliorer notre anglais.
Merci Marine et Lilou. Terminons cette chronique sur la Norvège avec Emmanuel qui lui aussi a effectué sa PFMP à Bergen.
Bonjour, je suis Emmanuel le Danois en terminale TCB et pour ma dernière année j'ai eu la chance de partir 2 semaines en Erasmus en Norvège.
Comment ça s'est passé l'inscription à Erasmus ?
Dans mon cas, Madame Leroux-Villois, la prof d'anglais, est venue nous parler dès la première, car on peut candidater à partir de la première. On passe un entretien en anglais, on fait un CV, une lettre de motivation en anglais et on n'a plus qu'à croiser les doigts. On est choisi en fonction de notre niveau en anglais et en atelier. Si on est pris, les profs envoient nos CV et lettres de motivation en norvégien qui nous trouvent des stages là-bas.
Et une fois sur place, ça s'est passé comment ?
À peine on a approché des côtes avec l'avion, c'était déjà enchanteur, de la neige et des montagnes à perte de vue. On en prenait plein les yeux avant même d'avoir touché le sol. Une fois sorti de l'aéroport, on a rencontré les profs norvégiennes Marit et Anne-Marit, deux personnes adorables qui nous ont emmenés à la résidence pour nous installer et nous ont expliqué le fonctionnement du pays, les transports en commun et les magasins, et bien sûr nos stages, l'hôtel Zanderka pour les filles et pour nous, l'entreprise Birger Morstol AS.
Et en termes de barrière de la langue, c'était pas trop dur?
En fait, les gens là-bas parlent énormément anglais grâce aux Danois et aux Polonais qui viennent y travailler.
Et on fait quoi à Bergen en tourisme?
De la rando. Il y a 7 montagnes qui encerclent la ville, un peu comme à Rome, mais avec de la neige. Un parcours total de 80 km avec des dénivelés vachement importants. L'Ulriken est la plus haute des montagnes, culminant à 643 mètres de haut. Mais on peut aussi visiter la ville pour y découvrir des endroits tels que Bryggen, le quartier historique de la ville. Un quartier où toutes les maisons sont entièrement en bois et elles ont été construites en 1170 sur demande du roi Olaf III.
Et en termes de nourriture, on mange quoi?
C'est assez similaire à la France, malgré des plats typiques comme le farikol, un plat constitué à base de viande, d'agneau, de patates bouillies et de choux. Mais dans un registre un peu plus insolite, en allant au grand marché aux poissons, vous découvrirez des steaks et du saucisson de baleine. Oui, c'est légal et franchement, c'est bon.
Mais t'as croisé des Français?
Un endroit inattendu, on en a croisé une qui nous a surpris avec Nathan. On allait repartir de la rando de l'Ulriken et on a fait un crochet par la station pour prendre un chocolat chaud. Et après s'être concerté en attendant notre tour, la dame de la caisse nous lance « Bonjour !» Tellement surpris, on a persisté à lui parler en anglais. Petit moment de gêne, le temps qu'on réalise qu'elle était française.
Tu as des anecdotes pour nous ?
Bien sûr. Le dernier soir, je voulais pas rentrer. Du coup, je suis allé faire de la rando sur Floyen, qui est donc la deuxième plus haute montagne, à 22h avec une pile frontale avec une batterie presque vide. Et arrivé en haut, je vois une ombre bizarre dans les forêts. Je m'approche pas serein du tout. Et d'un coup, je fais un bond en arrière. Je suis nez à nez avec un troll. J'étais sur le cul. Et en fait, c'est une statue en plâtre parce que j'étais arrivé sur le camping des trolls. Je me suis pas senti très malin. Ensuite, après avoir atteint le sommet, j'entame ma descente et dans le ciel, il y avait de la lumière à 23h. Je me suis dit qu'il y avait un problème. Et en fait, c'était une espèce de petite aurore boréale, trop faible pour être très visible, mais quand même pas mal.
Mais dis-moi, Emmanuel, pourquoi t'as voulu faire Erasmus ?
Parce que déjà pour découvrir du pays, parce que j'aime l'anglais et puis parce que c'est une opportunité unique.
Et ton stage, est-ce que tu peux nous rappeler l'entreprise et qu'est-ce que vous avez pu faire dans cette entreprise ?
C'était l'entreprise Birger Morstel AS. Et dans cette entreprise, la première semaine, on a fait du placo dans un hôpital psychiatrique. Et la deuxième semaine, on était dans un hôpital général qui était beaucoup plus près de notre lieu d'habitation, parce que le premier stage était à 1h en bus, et le deuxième était à 10 minutes à pied. Et on a également fait du placo dans le deuxième.
Et c'est une entreprise qui se spécialise dans les hôpitaux ou c'est un peu plus général que ça ?
C'est beaucoup plus général que ça, ils font de tout, mais là en ce moment, ils font beaucoup de rénovations d'hôpitaux et ils n'avaient pas de chantier de bois pour nous à ce moment-là.
Et est-ce que vous êtes entré en contact avec les patients et le personnel ou vous étiez en dehors de tout ceci ?
Dans l'hôpital psychiatrique, à part quand on allait à la cafétéria pour manger, non, on n'était pas du tout en contact avec eux. Ils étaient confinés au deuxième étage et nous, on était au premier. Par contre, dans l'hôpital général, vu qu'il était en fonctionnement, il nous arrivait de passer avec des outils et qu'il y avait des patients. Alors, passer avec une scie sauteuse dans un service pédiatrique, ça fait rire.
Et cette heure de bus, est-ce que vous l'avez trouvée longue ou bien il y avait encore plein de choses à découvrir sur le paysage ?
La première fois, c'était sympa à voir le paysage, sauf que tous les jours, du lundi au vendredi, une heure de bus pour rentrer, une heure de bus pour revenir, à la fin, c'était long, ouais.
Vous aviez trouvé des tactiques pour vous occuper ou vous regardiez juste le temps passer ?
On comptait les Tesla.
Vous comptiez les Tesla ?
Oui, y en a beaucoup là-bas. En une heure de bus, on en a compté 57.
Ah oui, quand même. C'est la nouvelle mode, ce que je vois.
En fait, c'est surtout que là-bas, ils sont plus riches que nous, même si la vie est plus chère. Et puis, pour eux, les voitures électriques, c'est un peu plus l'avenir. On a quasiment pas de croisés de voitures qu'on croise ici tous les jours.
Des thermiques, c'est ça ?
Ouais, c'est ça, des thermiques, on en a quasiment pas croisés.
Est-ce que vous avez pu en discuter avec quelques Norvégiens de ça, vu que ça vous a peut-être choqué ?
Non, on n'a même pas pensé à en discuter, mais c'est vrai que au début, le premier jour, on voyait plein de Tesla et tout, on trouvait pas ça très normal, mais c'était quand même assez marrant.
C'était un autre monde pour vous.
Ouais, c'est ça.
Et est-ce qu'il y a quelques mots en norvégien que vous avez pu apprendre ?
Je sais dire merci et bière.
Ah, allons-y.
Merci, c'est toc et bière, c'est eul.
C'est assez spécifique comme vocabulaire. Merci, Emmanuel. Ouais.
Merci, Emmanuel. Peux-tu nous parler du développement durable qui a été mis en place au lycée cette année ?
Oui, je faisais partie donc du coup du club de développement durable. On s'est réunis tous les mardis midi en présence d'éco-délégués, de personnels comme Monsieur Bouquerel et Madame Roger, mais aussi d'enseignants comme Madame Conche et Madame Leroux-Villois. On a travaillé autour des thèmes de l'eau, de l'énergie, des transports, la biodiversité, le bien-être, l'alimentation, les déchets et la solidarité. Au terme de ce projet, on a planté 3 pommiers dans l'enceinte du lycée derrière le CDI, dans l'objectif d'augmenter la biodiversité au sein du lycée, pour que les pommes puissent être servies au self et que les élèves aillent en chercher après les cours. Le choix des variétés a été fait après un cours sur la plantation et le type de pommes. On s'est réunis un mardi où deux d'entre nous ont été creusés les trois trous et Madame Roger et Victor, donc un des éco-délégués, ont été les acheter et ils ont été plantés dans la journée. On a également fait des jeux autour du développement durable.
Merci. Sans plus attendre, passons à une pause musique. Voy Voy Mu de Marie Boile.
Thank you.
Nous venons d'écouter Voy Voy Mu de Marie Boile. Maintenant, passons à Emmanuel.
Oui, j'ai encore quelques questions pour toi, Emmanuel. Sur le projet développement durable, est-ce que tu peux nous dire quelle spécialité de pommes vous avez pu planter ?
On a planté des pommiers reines des rainettes. On en a planté un. On a aussi planté une variété de pommes vertes dont je suis pas sûr du nom. Et la troisième, j'ai un peu oublié.
Et avec ce cours de plantation, qu'est-ce que vous avez appris essentiellement ?
Qu'il y a différentes sortes de pommiers en fonction de la taille. Les plus petits, ça s'appelle les quenouilles. C'est si on veut un pommier vraiment bas pour pouvoir attraper les pommes à la main. Et aussi au niveau de la régularité de la taille, il y a des pommiers qui sont plus grands. Et il y a une taille où carrément pour ramasser ces pommes, faut y aller à l'échelle. Je me rappelle pas de tous les termes parce que c'est un cours qu'on a eu en janvier. Mais c'était très instructif au niveau des variétés. Il y a plein de termes qu'on soupçonne absolument pas sur les pommiers.
Et est-ce que vous prévoyez d'autres plantations ?
D'autres plantations, on disait avec Madame Le Cerf, la directrice adjointe, que si les pommiers donnaient bien cette année. Peut-être qu'il en serait planté un ou deux de plus l'année prochaine, etc. En fonction de l'utilité du projet.
Et tout ça, c'est pour favoriser ce qu'on peut appeler le circuit court.
C'est ça, exactement. Nos pommes viennent déjà celles qu'on nous sert au lycée viennent déjà de l'agriculture bio, mais là, elles seraient carrément développées dans le lycée. Même si ça n'assurerait pas la production de pommes toute l'année, ça réduirait le coût et aussi tout ce qui est le transport, c'est un circuit très court. Ouais.
Est-ce que vous aviez d'autres projets ou des projets à venir pour le développement durable ?
Oui, on avait pour projet de faire un troc de vêtements qui n'a pas marché du tout, où les élèves devaient venir déposer des vêtements à eux dont ils ne veulent plus et venir en récupérer d'autres. Quelques semaines plus tard, mais ça n'a pas du tout pris. Les élèves n'ont pas été très réceptifs à cela. On avait aussi pour projet de faire une clean walk en fin d'année dans l'enceinte du lycée. Je ne sais pas si ce projet va également être mené à terme, mais ça serait quelque chose qui serait basé sur le bénévolat, et même si on serait quatre à le faire, ça aurait un quelconque impact sur l'écologie du lycée, en quelque sorte.
Et cette clean walk, en clair, c'est une marche où vous ramassez les déchets que vous trouvez, c'est ça ?
C'est ça, oui. On fait une marche à travers le lycée et on ramasse tous les mégots qui peuvent traîner au coin fumeur, tous les déchets qui peuvent traîner dans l'enceinte du lycée.
Est-ce que vous pensez que ça permettra de sensibiliser vos camarades ?
Ah c'est sûr que quand ils vont voir que si ça se fait, s'ils voient qu'il y en a certains qui se cassent les pieds à ramasser tout le bazar qu'ils mettent, peut-être qu'ils auront des réflexions un peu plus intelligentes et qu'ils emmèneront leurs déchets à la poubelle plutôt que par terre.
Est-ce que c'est un projet qu'il faudrait ensuite généraliser à chaque classe ? Imaginons une classe, certains élèves, quatre, pendant un mois s'occupent de la clean walk et puis après, passation.
Ça serait un beau projet, mais le volontariat des élèves serait peut-être pas très réceptif au fait de devoir nettoyer le lycée tous les mois. Je pense que certains élèves feraient la tête.
Restons positifs.
Oui.
Restons optimistes. Et pour ce troc de vêtements, qu'est-ce que il faudrait apporter pour que ce soit un succès, on va dire?
Déjà, certains élèves ont dit qu'au niveau de la communication, on avait beau avoir mis des affiches partout dans le lycée, jusque devant les portes de l'internat, ils ont dit qu'ils n'avaient pas reçu l'information, donc peut-être un peu plus de communication. Et puis aussi, peut-être simplifier encore le système qu'on avait mis en place, même s'il était déjà très basique et très compréhensif par n'importe qui.
Merci Emmanuel.
Merci beaucoup Emmanuel pour ces précisions. Passons maintenant aux rubriques météo et horoscope présentées par Héloïse.
Bonjour à toutes et à tous, ici Héloïse et c'est moi qui vous présente l'horoscope, la météo et les éphémérides de la journée. Nous allons tout d'abord commencer par l'horoscope pour les plus simplistes. Bélier, votre travail quotidien vous apportera de grandes satisfactions, même si quelques obstacles restent à surmonter. Taureau, pour les célibataires, le défi est de distinguer entre une affinité véritable et un feu de paille. Pour les couples, tout roule. Gémeaux, vous pourriez sentir une certaine tension émanant de la part de vos collègues. Aujourd'hui, mais ne vous en faites pas, la fin de la journée sera illuminée. Cancer, tout au long de cette journée, tout vous réussira si vous y mettez du vôtre. Lion, ne placez pas la barre trop haute pour éviter de tomber trop bas. Ne vous engagez pas dans des missions que vous ne maîtrisez pas. Vierge, vous pourriez recevoir un coup de téléphone inattendu qui vous mettra en joie. À moins que ce ne soit que des pubs. Balance, c'est le moment pour vous de faire valoir vos compétences. Ne soyez pas timide, faites vos propositions. Scorpion, vous êtes en bonne position pour apprendre tout un tas de choses très intéressantes aujourd'hui. Cela vous aidera beaucoup à l'avenir. Sagittaire, vous serez très efficace aujourd'hui. Profitez-en pour avancer vos projets en cours. Capricorne, multipliez les sorties et prenez l'air. Cela vous fera du bien de changer un peu d'air. Verseau, un certain ennui pourrait pointer à l'horizon, mais ne vous en faites pas. Rien ne peut vous arrêter dans votre lancée. Poisson, aujourd'hui, vous voyez le verre à moitié plein, à moins que vous ayez soif. Maintenant, pour les personnes qui ne savent pas trop ce qu'ils sont, voilà votre horoscope. Table basse, vous êtes tombé bien bas, mais ne vous inquiétez pas, vous allez vous relever. Sac à dos, vous avez un lourd poids sur les épaules, mais ça va le faire, la journée est bientôt finie. Lunettes, vous avez pas trop les yeux en face des trous, je vous conseille d'aller voir un ophtalmo. Micro, tout vous rapporte à l'audiovisuel. Micro, micro-influenceur, micro-trottoir. Micro-ondes, ah non, c'est autre chose. Ascenseur, des hauts et des bas mettront enfin votre journée, mais ne vous en faites pas, vous ne resterez pas coincé. Tondeuse, mes pauvres, vous a coupé l'herbe sous le pied. Mais ne vous inquiétez pas, ça repousse. Livre, vous êtes rempli de culture, même si c'est un livre choupi. Chaise, vos blagues sont peut-être pas pliantes, mais vous nous faites beaucoup rire. Ampoule, vous aurez beaucoup d'idées aujourd'hui, pas toutes lumineuses, mais c'est qu'un détail. Claquette, vous allez enfin revoir la lumière, le soleil est de retour. Et en parlant de soleil, maintenant la météo. Aujourd'hui sur les côtes normandes, il va peut-être faire beau, mais vu que le climat normand est très aléatoire, je peux pas confirmer. Mais ce que je peux vous confirmer, c'est que cette journée sera très nuageuse, ponctuée par de la pluie dans la matinée, ainsi que vers 17h. Manque de chance, on va ranger les claquettes. Nous allons maintenant passer aux éphémérides. Aujourd'hui, c'est le 149e de l'année. 217 jours avant la fin de l'année. C'est la semaine numéro 22. La journée va durer 17h08. Le soleil se lèvera à 6h06 et se couchera à 22h01. Le prochain jour férié est le dimanche 14 juillet 2024, le jour de la fête nationale. Aujourd'hui, nous fêtons les Germains, ainsi que les Germans, Germaniques, Lanfranc, Libouban. Nous vous passons donc une bonne fête. La citation du jour. La magie du premier amour, c'est d'ignorer qu'il puisse se finir un jour. Qu'est-ce que c'est beau. Célébrité du jour. En ce jour du 28 mai, Sylvie Tellier, notre Miss France 2002, fête ses 46 ans. On lui souhaite donc un bon anniversaire. Également, aujourd'hui, Romain Duris, l'acteur français qui a fait ses preuves dans Le Péril jeune, fête ses 50 ans. Bon anniversaire à lui également. C'est tout pour moi, en espérant que votre journée se passe bien. Bonne journée.
Merci Héloïse pour ces précisions. Maintenant, le Mag Actu se poursuit sur Douce News avec Guillaume qui va nous présenter les sorties cinéma et manga prévues dans la semaine à venir.
Voici les chroniques cinéma et manga du mois de juin. On commence par les sorties ciné avec tout d'abord Bad Boys Ride or Die qui sortira ce 5 juin. C'est un film d'action avec un certain humour. Comme dans les précédents opus, on retrouve les mêmes acteurs dans les mêmes rôles identiques qu'il y avait en 1995. Will Smith et Martin Lawrence. La franchise Bad Boy est de retour avec son mélange d'action explosif et d'humour. Mais cette fois, les meilleurs flics de Miami deviennent les hommes les plus recherchés d'Amérique. Nous enchaînons avec la sortie du film Détective Conan, l'étoile d'un million de dollars, qui lui sortira le 19 juin. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un animé qui adapte le manga de Tomoka Nagaoka. Dans la ville de Hakodate, Kaito Kid, l'antagoniste principal, annonce son prochain méfait, dont la cible est le sabre japonais en rapport avec le guerrier Toshizo Ijikata. Le jour du vol, Eiji Hattori et Conan, qui assistent au tournoi de Kendo dans la ville, confrontent Kid dans l'espoir de connaître la raison pour laquelle il veut l'épée de son côté, Ran fait face à Momiji, le véritable ennemi, et à son majordome, Lori, tente d'empêcher la confession de Eiji Kazuha. Nous terminerons avec un film d'horreur, Sans abri jour 1, qui sortira le 26 juin. C'est l'histoire d'une femme qui lutte pour sa survie lors d'une invasion extraterrestre dans la ville de New York. Les acteurs principaux sont Lupita Nyong'o et Joseph Quinn. Passons maintenant à la rubrique manga. Le programme en manga est le tome 39 de My Hero Academia qui sortira le 6 juin. Cela raconte l'histoire d'Izuku Midoriya. Même sans pouvoir, il veut devenir héros. Second manga, celui qui sera publié en juin, est Blue Block, tome 20. La suite, donc les résumés, est à la suite de l'élimination du Japon en 8e de finale de la Coupe du Monde. Ce nouvel échec incite l'Union japonaise de football à fonder le Blue Block qui rassemble les 300 meilleurs attaquants lycéens du pays pour laver cet affront. Nous poursuivons avec Black Clover, tome 36, sorti prévu le 12 juin. Un jeune homme sans pouvoir magique, dénommé Asta, devenir empereur mage, c'est-à-dire le roi du royaume de Clover, intégrant la confrérie du trône noir. Et le manga était dessiné par Yuki Tabada. Avant-dernier manga que je voulais vous présenter, Dark Souls Redemption qui sortira le 6 juin. Inspiré des jeux originaux qui sont Dark Souls 1, 2 et 3, qui sont réputés comme les jeux les plus durs du monde, ce tome raconte l'histoire d'une femme morte, ressuscitée par une étrange marque. Elle est devenue amnésique et je ne vous en dirai pas plus. Enfin pour terminer, Splatoon, la contre-éclabousse, tome 3, va paraître le 19 juin. L'action se déroule dans l'univers de Splatoon 3, un jeu Nintendo sorti en 2022. C'est un jeu de tir à la troisième personne où l'on se bataille à coups d'encre. Ce manga raconte l'histoire d'un garçon Inkling qui part se battre à la guerre et atterrit dans un autre pays sans savoir comment.
Merci Guillaume. Un peu dans le même registre, écoutons à présent Léo qui va nous présenter une chronique jeux vidéo.
Bonjour et bienvenue dans cette petite chronique de jeux vidéo à deux mois près, mais c'est pas trop grave. Et on va commencer directement. Overwatch 2. Ce jeu, non moins connu pour avoir été une grosse mise à jour plutôt que d'une véritable suite et d'avoir littéralement remplacé son prédécesseur, a eu de gros changements il y a peu, qui a rendu les joueurs assez contents. Pas tous évidemment, il faut toujours qu'il y en ait qui soient énervés pour tout, mais la plupart sont assez contents de cette mise à jour. Le character-based FPS de Blizzard, character-based c'est un jeu où on contrôle différents personnages avec différentes capacités, n'a pas connu que de super moments dans sa vie, surtout lors de la sortie du deuxième jeu. Des personnages à débloquer via le pass de combat, ce qui est long et énervant, un mode histoire annulé puis remplacé par des missions payantes, mais tout cela a changé. Pas pour le mode histoire par contre, ça, je pense pas que ça va changer. Mais par rapport aux personnages justement, tous les personnages sortis après la sortie d'Overwatch 2, donc de Sojourn, premier personnage ajouté, à Venture, dernier personnage ajouté, seront débloquables automatiquement pour tous les joueurs. Par contre, pour le premier personnage, celui du premier jeu, il va falloir le débloquer par soi-même. En parlant de personnages, le nouveau personnage de la saison 10, Venture, est déjà le premier personnage non binaire. Et elle est aussi très forte au corps à corps, qui remplace un petit peu Doomfist, ancien personnage corps à corps DPS. Les autres changements, c'est évidemment la nouvelle saison. Overwatch, ou Mirror Watch en anglais, et je préfère clairement cette version. Le thème est très simple. Les gentils deviennent les méchants, et les méchants deviennent les gentils. Tout ce qui est plus simple. Le skin mythique de la saison, récompense ultime du pass de combat, et cette fois-ci pour Ange. Ange Vengeresse, c'est pas le nom, mais je préfère comme ça. Honnêtement, le skin est extrêmement beau, la personnalisation est plutôt bonne, même si vous jouez pas le perso, je pense que vous devriez jouer juste pour le skin, il est vraiment très beau. Par rapport au skin mythique d'ailleurs, ils vont tous avoir leur propre boutique. Vous avez loupé une saison, vous n'avez pas réussi à la compléter, c'est pas très grave, vous avez qu'à acheter le skin. Comment vous dites ? Très simple. Il suffit d'acheter le pass de combat premium, donc oui évidemment il faut payer, et dans ce dernier, vous pourrez avoir des prismes mythiques. 10 à chaque fois, jusqu'à une fois avoir complété le pass de combat, vous en aurez 80 en tout. Ça vous suffira pour acheter un skin en plus de toutes ces variantes. Il y a aussi deux nouveaux modes de jeu, un temporaire, où c'est par rapport au thème de la saison. Globalement, c'est juste le mode normal avec de nouvelles capacités, mais en vrai, je l'ai testé et vraiment, le mode de jeu était plutôt bien, mais je pense qu'au moment où je dis ça, le mode de jeu est maintenant injouable, sauf s'ils reviennent. Et un autre mode de jeu, qui celui-ci devrait arriver dans la saison 11, mais qui est arrivé cette saison pour les tests, c'est le mode Clash. J'ai pas vraiment compris comment fallait faire, mais je sais qu'il y avait 5 points à capturer et fallait capturer tous les 5. Et c'est tout, j'ai pas vraiment compris les règles. Honnêtement, Overwatch 2, je pense qu'il va commencer à revenir sur ce qu'il était comme dans Overwatch 1. Évidemment, il y aura toujours moins de joueurs que dans le premier jeu, je pense. Mais il va petit à petit retrouver son aura d'avant.
Sorti le 8 août 2014, Five Nights at Freddy's est devenu un jeu légendaire sur Internet. Ce jeu au gameplay simple à comprendre mais dur à maîtriser, en plus qui change à chaque opus, un stress permanent, des robots tueurs très reconnaissables, un film, trop de livres et une histoire de famille aussi dure à suivre que celui du MCU. Ce jeu va fêter ses 10 ans. Pour l'instant, ni Scott Cawthon, créateur de la série et retraité des jeux vidéo depuis 2021, ni Steelwolf Studio, développeur actuel de la série, n'ont rien dit à propos de ça. Mais Click Team, créateur de l'éditeur sur lequel FNAF 1 a été créé, travaille sur un projet secret. On le sait grâce à 3 images. La première, c'est celle d'un personnage des jeux. La deuxième, un panneau de sécurité. La dernière, un peu plus cachée, une image 2D d'un bureau assez vieux, caché dans une pub pour le film FNAF. Ils ont aussi posté une vidéo où l'on voit le bâtiment du premier jeu FNAF. On voit un éclair et on voit quelques peluches, mais sinon on voit pas grand chose. Five Nights at Freddy's est vraiment un jeu légendaire pour Internet, comme je l'ai dit au début. On joue des tas de fangames, des milliers de théories pour assembler cette histoire sans réponse et une communauté gigantesque pour faire vivre cette série. Vous voulez voir du gameplay? Allez voir Markiplier, même si c'est en anglais, mais c'est pas trop grave. Vous voulez des théories? Allez voir Game Theory avec son hôte légendaire, Matt, maintenant retraité, Matt. Ce jeu a vraiment changé Internet, en plus d'avoir changé son créateur. Alors je dis bon anniversaire.
Merci Léo. Nous allons terminer ce Mac Actu par des actualités qui ont fait les gros titres des médias français. C'est tout d'abord Bénédicte qui revient sur l'affaire du petit Émile. Bonjour Bénédicte.
Bonjour Quentin. Effectivement, j'ai choisi de vous présenter l'effroyable affaire non résolue du petit Émile. L'affaire de la mort d'Émile concerne un petit garçon de 2 ans et demi, Émile Soleil, disparu le 8 juillet 2023 dans la commune du Vernet, dans les Alpes de Haute-Provence, et dont la mort est attestée par la découverte d'ossements à proximité le 30 mars 2024. Des ossements du petit Émile de 2 ans et demi ont été retrouvés ce samedi, 9 mois après sa disparition. Le 8 juillet 2023, le petit garçon disparaissait. D'abord ouverte pour disparition inquiétante à Digne-les-Bains, l'enquête avait rapidement été confiée à 2 juges d'instruction d'Aix-en-Provence, puis requalifiée en motif criminel pour enlèvement et séquestration. De nombreuses fouilles ont été organisées depuis juillet. Cette découverte d'ossements est une étape importante dans l'enquête sur sa disparition. Aucune piste n'avait été mise de côté, même si la thèse de la chute mortelle a semblé s'étioler à la suite des multiples battues organisées dans les environs du hameau, situé à 1200 mètres d'altitude sur les flancs du massif des Trois Évêchés, à l'issue desquelles aucun corps n'avait été retrouvé. Voici la chronologie des faits. Le 8 juillet 2023, à 17h15, Émile est aperçu pour la dernière fois par 2 voisins dans une ruelle du Haut-Vernet à Meaux, de 25 habitants, à 1200 mètres d'altitude, sur les flancs du massif de Trois Évêchés, où il venait d'arriver pour les vacances d'été dans la résidence secondaire de ses grands-parents maternels. Ses parents, une famille catholique très croyante, habitent la Bouilladisse et ne sont pas présents ce jour-là. La gendarmerie est alertée vers 18h et une enquête pour recherche des causes de disparition inquiétante débute le 9, assortie d'un appel à témoins. Une battue réunit des centaines d'anonymes venus pour prêter main forte les 2 premiers jours. Enquêteurs et militaires continuent à inspecter minutieusement 97 hectares de champs, bois et terrains escarpés sans succès. La 30aine de maisons du hameau rattachées à la commune du Vernet sont aussi fouillées. Les habitants interrogés et leurs véhicules visités. Le 12 juillet, le parquet de Digne annonce que l'enquête bascule sous le régime de l'enquête préliminaire. Puis, le 18, il ouvre une information judiciaire justifiée par la complexité de l'affaire auprès du pôle de l'instruction d'Aix-en-Provence. 2 juges d'instruction sont saisis du dossier, toujours pour recherche des causes de disparition inquiétantes. Débute un minutieux travail d'analyse des données recueillies, soit 1200 appels passés à la ligne téléphonique dédiée à une masse considérable d'informations concernant la téléphonie de toutes les personnes ayant borné vers le Haut-Vernay le jour de sa disparition, d'Émile. Le 25, des équipes cynophiles spécialisées dans la détection de restes humains appuyées par des drones sont déployées au Vernay. L'enquête judiciaire est élargie aux faits criminels d'enlèvement et séquestration, apprend-on le 21 août de sources judiciaires. Cette décision purement technique n'est pas liée à une évolution dans la quête sur la disparition toujours inexpliquée du garçonnet, mais ce cadre pré-procédural offre plus de souplesse aux enquêteurs, souligne le procureur adjoint. Dans les premières prises de parole, les parents de l'enfant déclarent fin août dans l'hebdomadaire familial chrétienne n'avoir rien à cacher et déplorent des témoignages malveillants dans la presse. On imagine forcément le pire, mais on ne peut pas s'empêcher d'espérer, dit le père. Dans le hebdomadaire le 24 novembre, à la veille du troisième anniversaire d'Émile, ses parents diffusent un appel vibrant « Comprenez notre détresse, dites-nous où est Émile », demande la mère. Le 8 juillet 2024, le parquet d'Aix-en-Provence indique que l'enquête est toujours très active et a pris une autre forme plus technique. Les enquêteurs de la gendarmerie doivent désormais analyser l'ensemble des éléments recueillis et notamment une masse de données numériques et de téléphones des personnes ayant borné sur la place ou aux alentours peu avant après la disparition. Détaille le procureur de la République d'Aix-en-Provence, Jean-Luc Blanchon. Le 28 mars, la famille d'Émile, des voisins et d'autres témoins visuels, soit 17 personnes, sont réunis par la justice en Auvergne pour une mise en situation visant à reconstituer le moment où l'enfant a été aperçu pour la dernière fois. Le dimanche 31 mars, le parquet d'Aix-en-Provence annonce que des ossements correspondant au corps du garçonnet a été retrouvé la veille à proximité du Vernay. Les analyses d'identification génétique ont permis de conclure ce dimanche qu'il s'agissait des ossements de l'enfant Émile Soleil, affirme le procureur d'Aix-en-Provence sans donner d'éléments sur la cause du décès de l'enfant. Actuellement en France, d'après le ministre de l'Intérieur, plus de 40 000 personnes disparaissent chaque année. Plus de 30 000 sont retrouvées. Il reste environ 10 000 disparitions non élucidées classées inquiétantes chaque année, dont presque en dixième, environ 800 concernant des mineurs.
Merci Bénédicte d'être revenu sur cette affaire importante. Nous poursuivons avec Louane qui va nous parler d'une affaire qui a eu lieu en Bretagne.
Pour ma part, le sujet que j'ai choisi, c'est un fait qui s'est passé entre le 15 et 29 avril, mais malheureusement, ce n'est pas fini. Il faut donc faire attention, car en Bretagne, 49 personnes, dont 5 enfants, ont été intoxiquées à cause d'une farine contaminée par une plante toxique. La majorité des gaz se trouve en Ille-et-Vilaine. Ces cas ont été signalés entre donc le 15 et 29 avril 2024. Précise l'agent régional de la santé en Bretagne, les gens ont consommé des lots de farine de blé noir de la marque JP Clotho. Ces lots auraient été contaminés par le datura, une plante que l'on retrouve dans les champs et qui peuvent contaminer certaines récoltes. Cette plante peut avoir des effets sur le système nerveux. Les symptômes sont divers. Cela peut causer des sécheresses de la bouche, les pupilles dilatées, des troubles de la vue, de la tachycardie, des agitations, des confusions, des désorientations spatio-temporelles, hallucinations, paroles incohérentes ou bien même troubles d'équilibre. Selon un communiqué des autorités, parmi les 49 personnes intoxiquées, deux sont hospitalisées avec une sorte de évolution favorable. Toutes les personnes qui ont acheté ce produit et dont la date est à consommer de préférence avant, y compris entre octobre 2024 et mars 2025 inclus, sont invitées à ne pas le consommer.
Merci Louane de nous éclairer sur ce sujet. Maintenant, passons à une petite pause musique. Lad Be Andrew de Matmata.
Viens donc faire un tour à l'ambé. Y'a des chouchènes à volonté. squatter, viens donc faire un tour à l'ambé. Si t'as rien trouvé pour squatter, viens donc faire un tour à l'ambé. Si ton mec vient de te plaquer, viens donc faire un tour à l'ambé. Si ton mec vient de te plaquer, viens donc faire un tour à l'ambé. Si du bouquin tu veux te jeter, viens donc faire un tour à l'ambé.
Nous venons d'écouter Land B Andro de Matmata. Et maintenant, nous allons conclure ce Mac Actu avec Marius qui nous explique la nouvelle législation en vigueur sur le tabac.
Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Marius et je vais vous parler de la nouvelle loi sur le tabac frontalier. Un décret du 27 mars 2024, les critères d'appréciation du transport de tabac. Depuis le 29 mars 2024, un achat transfrontalier de tabac ne repose plus uniquement sur la quantité transportée. Ces dispositions ne concernent que les produits acquis par un particulier. Vous devez toujours avoir plus de 18 ans pour vous en procurer et le tabac doit être acquis pour vos besoins propres. Ce décret fixe une liste de 12 critères pour s'assurer qu'il s'agit de produits acquis pour une consommation personnelle, parmi lesquels la quantité de produits, votre activité économique ou votre statut commercial, le mode de transport utilisé, le lieu où se trouvent ces produits ou en cas de transport, leur emplacement dans votre véhicule, votre destination lorsqu'elle diffère de votre lieu de résidence habituel. De plus, la Direction générale des douanes vient de communiquer les seuls indicatifs pour l'achat et le transport en intracommunautaire. Pour les cigarettes, 800 pièces, soit 4 cartouches. Pour les cigares, 200 pièces. Pour les cigarios, 400 pièces. Et pour le tabac à fumer, 1 kilo. Les sanctions en cas de dépassement de quantité, droit de consommation à payer par exemple 210 euros si vous apportez 5 cartouches de cigarettes. Attention, ce décret ne concerne pas l'Andorre, Monaco, la Suisse, les îles anglo-normandes, les départements et régions d'outre-mer et les collectivités et territoires d'outre-mer.
Merci Marius. Et voilà, c'est déjà la fin de cette matinée avec Doucet News. Nous vous remercions de nous avoir écoutés. L'émission reprendra à 13h30 pour de nouvelles chroniques. En attendant, passons à la pause musicale avec des morceaux choisis par les élèves de la classe de Rémi TCB. Bonne écoute à tous et à tout à l'heure.